Je me posais la question, là, en vous écoutant, de savoir pourquoi dans les grandes entreprises particulièrement, on trouve autant de manipulateurs, je dirais, à des postes clés. Parce que finalement, il n'y a pas que des imbéciles, je dirais, dans les hautes sphères. Et ça me frappe, quoi. Il doit y avoir une explication à ça.
Le pouvoir va avec la manipulation. Ça, c'est... Ouais. Et plus le pouvoir est absolu, plus il va avec la manipulation. Quelle est la problématique de quelqu'un? C'est d'obtenir, tout le monde, hein, d'obtenir quelque chose. Si vous êtes commerçant, bah, vous allez présenter bien vos produits. Vous êtes dans l'influence, vous présentez vos oranges sur le... Et si vous êtes dans la manipulation, vous direz, à l'intérieur, il y a un tel truc qui n'est pas cher pour essayer de vendre autre chose. Ça, les grandes entreprises font ça aussi, les grandes surfaces. Mais dans la manipulation... Pour obtenir qu'une équipe fonctionne, il faut essayer de répondre aux aspirations de différentes personnes en leur donnant un objectif. Et on est très souvent manipulé par l'objectif. C'est probablement ce qu'il y a de plus dangereux en nous, c'est l'espoir. On peut aller vers le bûcher, on peut aller avec un espoir extraordinaire, on a pu faire des choses épouvantables, que ce soit... les nazis, les communistes, les maoïstes ou les islamistes, c'est dingue. Il y a quelque chose qui nous tire. Ah, on est en transe. C'est ça. Et donc, dans une entreprise à une plus petite échelle, il faut dire aux gens, oui, on travaille pour une bonne cause, les valeurs de l'entreprise, il faut écraser nos concurrents. Et on nous réveille des choses qui ne sont pas des choses personnelles, qui sont des mécanismes humains, hein, des mécanismes principaux sur Terre. C'est la rivalité. Hein, on est en concurrence, il y a les autres, etc. Donc effectivement, très souvent dans les entreprises, les leaders vont apprendre soit à influencer, soit à manipuler. Et parfois, ils vont être un petit peu ambigus, ils vont parler à chacun le langage qu'il attend. Donc c'est quelque chose malheureusement de tout à fait normal, et c'est à nous de ne pas nous laisser faire. En politique, on sait très bien que si on prend les deux derniers présidents, je veux dire, c'est des menteurs de A à Z. Tout ce qu'ils ont dit, c'était tout à fait le contraire. C'est juste pour être élu, quoi. Donc, le pouvoir va vraiment avec le mensonge. Pour moi, le pouvoir est frère du mensonge. Tout le temps. Donc, c'est à nous de dire non, non, mettons des contre-pouvoirs. Autre question, mademoiselle.
Bonjour monsieur, excusez-moi d'être en retard.
Oui, mais ça a commencé vraiment avec votre arrivée. Avant, on a dit des généralités.
Mais je voulais savoir, donc je parle en tant que maman, je voulais savoir, là, c'est bientôt le Noël, et je suis un peu accablée par le fait qu'il y a partout, là où je vais, des jouets, des choses qui attirent mes enfants. J'ai deux enfants, deux garçons, 5 ans et 3 ans et demi. Et j'arrive pas vraiment à dire non, parce que vous voudrais quand même faire plaisir. Je sais que le non est important. J'y suis arrivée au moment où la phrase clé, le non, c'est une phrase complète. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider dans cette démarche? J'ai vraiment envie de le maintenir. Oui, mais je ne sais pas comment faire, parce qu'il y a d'autres...
Alors, pour les enfants, c'est très important de lui dire « Oh, c'est vraiment un très, très beau jouet. Je comprends vraiment que tu en aies envie, mais je ne te l'achèterai pas. » C'est-à-dire qu'il y a deux phases différentes. Il faut accepter que l'enfant désire, parce qu'il ne faut pas lui couper son désir. L'enfant, c'est un être qui désire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est normal. « Oh, c'est beau, maman, achète-moi ça. Oh, c'est beau, c'est beau. » Il est comme un fou là-dedans, c'est normal. Et puis toute la télé, tout le monde à l'école, tout le monde... Enfin, il y a une sorte de fièvre, hein, qui s'empare de nous à ce moment-là. Donc, on reconnaît la légitimité de son désir. Il a le droit de s'exprimer. Parce que si, par exemple, il me dit... maman, regarde, c'est beau, achète-moi ça. Et je lui dis, arrête de réclamer, non. Je l'empêche de désirer. Donc, il a le droit de désirer, premièrement. Et deuxièmement, il a le droit aussi de s'habituer sur Terre à ce qu'on n'obtienne pas, ce qu'on désire. Et c'est une très, très bonne éducation de dire, c'est magnifique, vraiment, quel beau train électrique. Et la réponse est non, j'ai pas les moyens, j'ai pas envie. Et la réponse est non. Mais il est moins frustré parce qu'il a pu exprimer. Mademoiselle, je crois que vous avez une question. Voilà, la dernière question. Alors, vous avez le choix. Soit on dit on garde le meilleur pour la fin, ou alors on dit in cauda venenum, le venin est dans la queue. Au choix.
Moi, c'est un cas un peu plus concret.
En fait, je fais des entretiens avec des familles et je suis en entretien une maman qui est séparée de son compagnon depuis 2 ans et demi maintenant. Mm-hmm. Et ensemble, ils ont un petit garçon de 4 ans. Et le papa est vraiment très manipulateur vis-à-vis de la maman et il utilise son enfant. Donc j'ai pensé à ça par rapport à la question de madame. Il utilise l'enfant en disant que c'est pour son bien, mais c'est vraiment... je pense qu'il en a un peu rien à foutre de l'enfant, vulgairement parlant, mais c'est plus pour atteindre la maman. Et comment faire... Enfin, la maman, elle ne sait vraiment pas comment faire et j'arrive pas...
Là, il faudrait que ce soit plus précis, en fait, comme question, parce que qu'est-ce qu'il fait? En quoi est-ce qu'il est manipulateur par rapport à son enfant?
Mais en fait, par exemple, dans la rue, le monsieur arrête... Enfin, la maman est harcelée par ce monsieur. Il arrête sans arrêt en disant « Mais c'est pour l'enfant, c'est parce que j'ai envie de voir mon enfant. » Donc l'enfant pense que son papa veut venir le voir, mais finalement, l'objectif de monsieur, c'est pas de voir son enfant, c'est d'arrêter la maman pour...
Pour l'embêter. Ouais. Ouais. Et il faut, dans ce cas-là, quand il y a manipulation, il faut malheureusement se rappeler d'une chose très désagréable qu'on déteste tous, c'est qu'il y a des rapports de force dans la vie et qu'il faut aussi aller parfois au conflit. Et c'est pour ça qu'il y a des lois et des règlements. Si vraiment elle se sent harcelée, seule une décision judiciaire... Vous savez, les paranoïaques et les manipulateurs peuvent être vraiment tenus par des décisions quand ils ont peur. S'ils n'ont pas peur, ça c'est le principe des humiliations, des raquettes, etc. Tant que le rapport de force n'est pas modifié, la manipulation ou le harcèlement continue. Elle n'est pas seule. Elle est dans un pays où il y a des lois qui existent depuis, mettons, 30 000 ans, puisque Cro-Magnon, c'était en France. Donc, depuis 30 000 ans, il y a des lois. Donc, il faut s'appuyer sur ces lois-là.
Et est-ce qu'il ne peut pas manipuler le juge aussi, qui a l'air plus qu'il est qu'un homme, hein?
Non, parce que c'est plus les juges femmes qui sont manipulés. Non. Bien sûr, on peut manipuler le juge, mais le juge, vous savez, il a quand même l'habitude, sauf s'il a 25 ans, mais le juge, il a l'habitude. C'est quand même très dur de manipuler un juge. Chacun essaye d'influencer, mais il a une certaine force, quoi, et une certaine expérience. Je vous remercie infiniment. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais être juste là, à l'entrée à gauche. Hein,
au stand Jouvence.
Au stand Jouvence, voilà. Hein, d'accord. Merci infiniment de vous être déplacé un dimanche matin. Et puis, j'espère à bientôt. Alors, merci à vous. Merci. Au revoir.